Chapitre 16 de Musicien ménétrier. Justin attendit son professeur sans faire un pas pour aller au-devant de lui. On eût dit qu'en quittant sa place, il avait peur de perdre son idée. Il raconta au vieillard ce qui venait de se passer. « Ah !» dit celui-ci, « une place vacante !» Et tout à coup, à lui aussi, il lui vint une idée. C'est que cette place de contrebassiste dans une guinguette, si répugnante qu'elle fût, aurait cela d'avantageux qu'elle romprait la monotonie de la vie du jeune homme. En outre, ce produit serait d'un grand soulagement pour la pauvre famille. « Mais, ajouta-t-il, voudra-t-on te la donner ?»« Je l'espère, » répondit modestement Justin. « Je crois bien, » dit le père Müller, « où il serait diablement difficile. » « Eh bien, je vais entrer et m'informer. »« J'entre et je m'informe avec toi, » dit le bon professeur. Justin n'eut garde de refuser l'offre. On comprend facilement l'effet que produisit, dans un pareil bastringue, l'entrée de ce jeune homme sérieux et de ce grave vieillard, tous deux vêtus de noir. Les danseurs les montrèrent du doigt à leur danseuse en éclatant de rire. Les deux amis ne s'aperçurent point de cette hilarité, si générale qu'elle fût, ou ne firent pas semblant de s'en apercevoir. Ils demandèrent à un des garçons de parler au maître de l'établissement. Un gros bonhomme de cabaretier, rond comme Silène, plus rouge que les vins qu'il servait à ses pratiques, arriva d'un air empressé, croyant sans doute qu'il s'agissait de quelque commande importante. Les deux amis lui adressèrent timidement leur requête. Et quand on pense que le cœur d'un homme intelligent, d'un artiste, d'un fils qui nourrissait sa mère, d'un frère qui nourrissait sa sœur, d'un citoyen utile et précieux, enfin, battait de crainte de se voir refuser cette demande d'être ménétrier dans une guinguette. Hélas, ce que tout est relatif dans ce monde. Cette place accordée se traduisait par un pantalon et un habit noir pour lui, par une douillette pour sa mère, par une robe pour sa sœur. Oh, riez, riez, vous qui n'avez jamais eu à craindre la faim ou le froid pour des êtres chers, mais pour moi qui eus aussi une mère et un fils à nourrir avec 100 francs par mois, rire est un sacrilège. Les deux amis exposèrent donc timidement leur requête. Le cabaretier répondit que ce n'était point son affaire, que cela regardait le chef d'orchestre. Il offrit au reste d'aller lui soumettre la demande du jeune homme, ce qui fut accepté, et au bout de 5 minutes, il rapporta cette réponse satisfaisante que Justin, pourvu qu'il remplît les conditions de science nécessaires à l'important emploi de contrebassiste à la barrière, pouvait entrer en fonction à l'instant même, moyennant 3 francs de cachet. Il y avait bal 3 fois par semaine, par conséquent il gagnerait 36 francs par mois. C'était à peu près ce que lui avaient rapporté ses 8 premiers élèves. C'était donc le Pérou. On disait encore le Pérou en 1821. Aujourd'hui, on dit la Californie. C'était donc le Pérou pour lui que cette place aussi, accepta-t-il, ne demandant que le temps d'aller chercher son violoncelle au Faubourg Saint-Jacques. Mais il lui fut répondu que c'était inutile, on avait prévu la désertion du contrebassiste et on s'était muni d'une contrebasse dont, à la rigueur, eût joué le second violon. Un contrebassiste s'offrait à la place de celui qui venait de partir. Tout était donc pour le mieux, comme dans le monte de Pangloss. Justin fut enchanté au fond du cœur que son violoncelle, instrument vierge, pieux et solitaire, échappât à la profanation dont il avait été menacé. Le jeune homme remercia M. Müller et voulut le renvoyer, mais le bon professeur déclara qu'il assisterait au début de son élève et, pour l'encourager de sa présence, ne quitterait l'établissement que le bal fini. Justin serra la main de son professeur, se fit apporter la contrebasse et alla prendre sa place à l'orchestre, au grand ébahissement des spectateurs qui, tout prêts à le siffler à son entrée, étaient presque maintenant tentés de l'applaudir. C'était un tableau digne d'un peintre de genre que cet orchestre, s'il est permis de donner ce nom prétentieux à la réunion de 8 sourds qui exécutaient les quadrilles infernaux au son desquels dansaient les 300 ou 400 personnes composant les habitués de la susdite guinguette. C'était, disons-nous, un tableau digne d'un peintre de genre que cet orchestre, au milieu duquel se trouvait confondu un jeune homme grave et sérieux comme le pauvre Justin. Il avait l'air d'un musicien martyr jouant la corde au cou pour le divertissement d'un peuple de païens. Sa figure, éclairée par les quinquets accrochés au-dessus de sa tête, apparaissait dans toute son expression. Justin était loin d'être beau, le pauvre garçon, mais on sentait que l'air souffreteux qui donnait le ton à toute cette physionomie était la cause réelle, ou plutôt la seule cause qui enlaidissait son visage. Que l'illumination des joies les plus simples vinssent à passer sur ce front, qu'un pur sentiment de bonheur ou de plaisir brillât dans ses yeux, qu'un sourire entr'ouvrit ses lèvres, et certainement ce visage, à défaut de beauté, s'empreindrait aussitôt d'une douceur angélique et d'une rare distinction. Manœuvrant comme il le faisait des deux mains une contrebasse d'une taille double de son violoncelle, avec ses longs cheveux blonds retombant sur son front quand la mesure était pressée, avec ses grands yeux bleus, vagues, noyés, onduleux, avec cet air de langueur répandu sur toute sa personne, il devait nécessairement inspirer à quiconque l'eût vu en cet instant un profond intérêt, une puissante sympathie. Figurez-vous, Liszt, jeune d'âge, beau d'inspiration, eh bien, notre maître d'école, Justin, était cela. Après la contredanse, le chef d'orchestre lui fit les compliments les plus sincères, et ses confrères instrumentistes l'applaudirent. Danseurs et danseuses battirent des mains. Le bon vieux professeur ne se possédait pas de joie, lui aussi battait des mains, trépignait, pleurait d'émotion. Tant il est vrai que le triomphe est toujours le triomphe, quels que soient ceux qui le décernent. À 11 heures, Justin s'informa jusqu'à quelle heure durait le bal. On lui répondit oh, « parfois jusqu'à 2 heures du matin ». Alors il fit un petit signe au bon père Müller. Celui-ci accourut. Il s'agissait d'aller prévenir la mère et la sœur qui devaient être dans une inquiétude mortelle. Jamais, au grand jamais, Justin n'était resté dehors passé 10 heures. Le bon professeur comprit la situation, prit ses jambes à son cou et trouva Madame Corby, c'était le nom de la mère de Justin que nous avons l'honneur de prononcer pour la première fois, et trouva Madame Corby et sa fille en prière. « Eh bien, dit-il en entrant, vos prières sont exaucées, vertueuse femme et sainte fille, Justin a trouvé une place de 36 francs par mois. » Les deux femmes poussèrent un cri de joie. Le professeur leur raconta l'aventure. Avec ce sentiment de parfaite délicatesse que possèdent en général les femmes, Madame Corby et sa fille comprirent l'étendue du sacrifice que leur fils et leur frère faisaient aux exigences de la situation. « Bon et cher Justin, murmurèrent-elles, et il y avait dans leur voix un accent si tendre qu'il était presque plaintif. « Oh, ne vous apitoyez pas sur lui, dit le professeur, c'est un triomphe, il est beau, il est magnifique, il ressemble à Weber quand il était jeune. » Et cela dit, comme M. Müller n'aurait pas su dire davantage, il prit congé des deux femmes pour retourner à la guinguette. Il ne quitta la barrière qu'avec son cher élève, c'est-à-dire à 2 heures du matin. Ils trouvèrent les verrous de la porte de la rue tirés par les soins de la sœur de Justin. À la fin du mois, Justin avait joué 12 fois et avait touché ses 36 francs. Il put donc, avec ses 36 francs, acheter les objets de première nécessité. Et maintenant, nous croyons avoir suffisamment démontré à nos lecteurs tout ce qu'il y avait de foncièrement bon et honnête dans le cœur de notre héros. Nous nous bornerons donc à ajouter quelques mots pour compléter la peinture de son caractère. Ce caractère, au reste, dans tout son ensemble, était facile à définir par un seul mot. C'était le mot à l'aide duquel Salvatore avait désigné à Jean Robert la mélodie qu'exécutait Justin, résignation. Ajoutons que si cette vertu, vertu un peu négative, prenait jamais une figure humaine pour descendre sur la terre, elle n'en choisirait certes pas d'autre que celle du résigné Justin. Eh bien, voyons qu'on nous permette de faire un peu d'analyse. Ce n'est pas une aventure que nous racontons, c'est l'histoire d'un cœur souffrant. Fouillons donc ce cœur jusque dans ses replis les plus cachés. Voyons, disons-nous, ce que va devenir ce caractère si bien trempé par le malheur. Voyons ce qu'il va devenir devant un bonheur immense ou une douleur infinie. Résistera-t-il ou va-t-il se briser ? Croyez-vous, cher lecteur, il y a, pour les plus froids, une étude palpitante là-dessous. Voici un homme vierge dans toute l'acception du mot. Il a vécu jusqu'ici comme les oiseaux du ciel, allant chercher, d'air en air, de plaine en plaine, le grain qu'il apportait à son nid. Jusqu'aujourd'hui, sa seule pensée, son soin unique, a été de satisfaire les besoins matériels de la vie. Au prix de ses veilles, au prix de ses sueurs, au prix de son sang, il est parvenu à donner à sa pauvre famille toujours l'existence, parfois même une sorte de bien-être. Pour lui-même, qu'a-t-il fait ? Rien. Seul au monde, s'il n'eût eu ni mère ni sœur, n'eût-il pas trouvé moyen de continuer ses études, de se faire recevoir bachelier, licencié, agrégé, qui sait, docteur peut-être ? Et maintenant, au lieu de quelques chaires de faculté où il fut parvenu par son labeur, au lieu d'un rang honorable où l'eût placé cette persistance qui est un des caractères distinctifs de sa nature dévouée, le voilà enfoui dans une sorte de casemate où le devoir l'a cloué, où la piété filiale l'étreint. Oh, certes, ce n'est pas nous qui avons tant aimé notre mère et qui étions si tendrement aimés d'elle qui nous plaindrons jamais de la famille. Mais lorsque la famille, qui, à la suite d'un grand malheur, devait recevoir secours de la société, abandonnée par elle à la misère, pareille à une machine pneumatique, absorbera l'air d'un de ses membres, si nous ne nous plaignons pas tout haut, nul ne saurait au moins nous empêcher de gémir tout bas. C'était donc de sa famille que venait tout le malheur de Justin, et cependant, cœur d'or, rien ne lui eût causé un plus profond désespoir que cette seule idée que sa famille aurait pu ne pas exister. Comment alors pouvait-il sortir de là ? Justin n'en voulait pas sortir, il voulait continuer de vivre demain comme il avait vécu hier, comme il avait dévoué son adolescence, il dévouait sa jeunesse, il dévouerait son âge mûr, il dévouerait sa vie. Mais l'âge arriverait pour lui de se marier. Une jeune femme lui apporterait, au milieu de ce désert, au lieu de cette aridité, toutes les gaietés, toutes les joies, tous les enivrements de la jeunesse. Hélas, où la trouver, cette femme bénie, cette Rachel adorée ? Avait-on 10 ans de temps et de travail à donner à Laban ? Quel monde voyait-on ? Suffisait-il de se mettre à la fenêtre pour voir, dans le lointain, cette terre promise des jeunes gens qu'on appelle une jeune fille ? Et puis, au fond, oserait-il se marier, l'honnête et scrupuleux Justin ? Sa conscience ne lui disait-elle pas que le mariage est un contrat qui lie les âmes aussi bien que les mains ? Et son âme lui appartenait-elle ? Ses mains étaient-elles à lui ? Était-il libre d'amener une étrangère au foyer maternel ? Ce qu'il aurait donné de tendresse à une épouse, ne l'eût-il pas enlevé à sa mère, à sa sœur ? Voilà pour l'âme. La femme, l'épouse, n'absorberait-elle pas dans les exigences de sa jeunesse, de sa coquetterie de toilette, une portion de l'infime revenu ? Voilà pour les mains. Non, le mariage même n'était pas un moyen de remédier à cette profonde infortune. Il fallait donc faire éternellement abnégation de soi-même. C'est ce que faisait Justin. Mourir à la peine, peut-être, c'est ce qu'il était prêt à faire. Ou tout attendre de la bonté de Dieu. Hélas, Dieu n'avait point jusque-là gâté la pauvre famille, et sans sacrilège, il lui était bien permis de douter. Ce fut pourtant la main de Dieu qui tira Justin de cet abîme. Un soir du mois de juin, qu'après une de ces journées de soleil où c'est fête dans la nature, Justin revenait avec son vieux maître d'une excursion dans la plaine de Montrouge, le jeune homme aperçut, couché dans les blés, les coquelicots et les bluets, une petite fille de 9 à 10 ans qui paraissait dormir profondément. Dieu, sous la forme de cette jeune fille, lui envoyait un de ses anges en récompense de sa sublime vertu.